Le lendemain matin, Eugénie, comme toutes les jeunes filles de province, se lève de bonne heure, fait sa prière et sa toilette. Elle se lave les mains à l'eau froide et, en les voyant si rouges et si rugueuses, elle se demande ce que fait son cousin pour les avoir si blanches et si douces. Sa toilette terminée, elle entend sonner l'horloge de l'église et compte 7 heures. Il est très tôt et elle s'assoit devant la fenêtre. Elle pense à son cousin, se lève brusquement pour se regarder dans son miroir. Eugénie a une tête énorme et ronde, le front masculin, des yeux gris et un nez un peu gros. « Je suis trop laide, il ne fera pas attention à moi », se dit-elle. Puis elle ouvre la porte de sa chambre et écoute les bruits de la maison. Nanon est déjà levée. « Nanon, ma bonne Nanon, fais-nous de la galette !» lui demande Eugénie. « Et qui me donnera du bois pour le four, et de la farine, et du beurre ?» demande Nanon. « Vous savez bien que tout est fermé à clé dans cette maison et que seul votre père peut ouvrir. Demandez-lui tout cela et il peut vous le donner. Tenez, le voilà qui descend. » Eugénie se sauve dans le jardin en entendant descendre son père. Tous les matins, Grandet descend pour donner à Nanon les aliments nécessaires et à la préparation des repas de la journée. Grandet prend un gros pain rond et commence à le couper. Coupez un morceau de plus, car nous sommes 5 aujourd'hui, monsieur, lui dit Nanon.
C'est vrai, répond Grandet. Mais ces jeunes gens de Paris ne mangent pas beaucoup de pain, tu verras. Tiens, voilà les morceaux de sucre.
Mais, monsieur, vous me donnez 6 morceaux, il m'en faut 8. Et donnez-moi aussi de la farine et du beurre, je ferai une galette aux enfants.
Nanon, je ne t'ai jamais vu comme ça. Tu veux donc me ruiner à cause de mon neveu? Tu n'auras que 6 morceaux et pas de galette.
Eh bien, comment est-ce que votre neveu sucrera son café?
Avec 2 morceaux. Moi, je ne prendrai pas de sucre.
Vous ne prendrez pas de sucre, à votre âge?
Occupe-toi de ce qui te regarde.
Nanon abandonne la question du sucre pour obtenir la galette. « Mademoiselle » crie-t-elle par la fenêtre. « Est-ce que vous voulez de la galette ?»«
Non, non !» répond Eugénie.
« Allons, Nanon !» dit Grandet, en entendant la voix de sa fille. « Tiens, voilà une mesure de farine et un peu de beurre !»«
Mademoiselle !» crie Nanon. « Nous aurons une galette !»
Le père Grandet regarde l'heure, prend son chapeau, va embrasser sa fille et lui dit
« Veux-tu te promener au bord de la Loire avec moi ?» J'ai quelque chose à faire sur mes terres. »
Eugénie met son chapeau et part avec son père. Dans la rue qui mène à la place, ils rencontrent Monsieur Cruchot, le notaire. Ils se promènent ensemble et les deux hommes parlent de leurs affaires. Eugénie admire le paysage sans vraiment écouter ce qu'ils disent. Mais soudain, elle entend Cruchot dire
« Eh bien, vous avez fait venir un gendre de Paris. On ne parle que de votre neveu dans tout Saumur. »«
Pour vous dire la vérité, j'aimerais mieux jeter ma fille dans la Loire que de la donner à son cousin. »
Cette réponse remplit Eugénie de tristesse et de souffrance, et elle rentre seule. Depuis la veille, elle sent de l'affection pour Charles. Pourquoi son père ne veut-il pas de ce mariage ? Voyant que le notaire a le journal du jour à la main, Grandet lui demande de regarder les nouvelles.
« Mon Dieu !»
dit le notaire en ouvrant le journal.
« Eh bien, quoi ?»
s'écrie Grandet.
« Lisez !»«
Monsieur Grandet, un riche marchand de vin de Paris, s'est tué hier parce qu'il était ruiné, etc. »«
Je le sais depuis hier !» dit Grandet.
« Et son fils, si joyeux hier ?»
« Il ne sait rien encore, » répond Grandet avec le même calme.
« Adieu, monsieur Grandet, » dit Cruchot, qui comprend alors que Charles Grandet n'est pas venu pour épouser Eugénie et que, s'il n'a pas d'argent, il ne l'épousera jamais. En entrant dans la salle, Grandet trouve le déjeuner prêt. Madame Grandet et sa fille, assises devant la cheminée, sont déjà en train de travailler.
« Vous pouvez manger, » dit Nanon. « Votre neveu dort comme un enfant. »«
Laisse-le dormir, » dit Grandet.
Il se réveillera toujours assez tôt pour apprendre les mauvaises nouvelles.
« Que se passe-t-il ? » demande Eugénie.
« Son père s'est tué. »«
Pauvre jeune homme !» s'écrie Madame Grandet.
« Oui, pauvre, » reprend Grandet, « car il n'a pas un sou. »
Eugénie arrête de manger et se met à pleurer.
« Tu ne connaissais pas ton oncle, pourquoi pleures-tu ? » lui demande son père.
Eugénie comprend à ce moment qu'elle doit dissimuler ses sentiments, et elle ne répond pas.
« Je dois sortir. Vous ne lui parlerez de rien, j'espère, Madame Grandet. Je serai de retour pour le second déjeuner, et je parlerai alors avec mon neveu. Quant à toi, Eugénie, si c'est pour ce jeune homme que tu pleures, sèche tes larmes. Il partira bientôt pour les Indes, et tu ne le verras plus. »«
Oh, maman, comme je souffre !» s'écrie Eugénie, une fois seule avec sa mère. Madame Grandet regarde sa fille avec tendresse et devine tout. « Ma pauvre enfant !» lui dit-elle en prenant la tête d'Eugénie pour l'appuyer contre son cœur. « Tu l'aimes déjà ? C'est mal. »«
Mal ?» répond Eugénie. « Pourquoi ? Tiens, maman, mettons la table pour son déjeuner. »
Puis elle appelle Nanon.
« Nanon, tu feras de la crème pour midi. » Et puis, donne à mon cousin du café bien fort. J'ai entendu dire à Monsieur des Grassins que le café se faisait bien fort à Paris.
Si ton père s'aperçoit de quelque chose, dit Madame Grandet, il est capable de nous battre.
Eh bien, il nous battra. Nous recevrons ses coups à genoux.
Pour toute réponse, Madame Grandet lève les yeux au ciel. Eugénie va chercher quelques grappes de raisin et des poires dans la cuisine et les apporte sur la table. Eugénie réussit à préparer un déjeuner très simple, peu coûteux, mais qui semble luxueux par rapport au déjeuner habituel. En voyant la table placée près du feu, le fauteuil mis devant le couvert de son cousin, les deux assiettes de fruits, les œufs, la bouteille de vin blanc, le pain, le sucre, Eugénie se met à trembler en pensant à ce que dira son père s'il revient avant le déjeuner de son cousin, et elle regarde souvent l'heure. « Sois tranquille, Eugénie, » lui dit sa mère. « Si ton père vient, je dirai que c'est moi qui ai tout préparé. » À 11 heures, Charles descend enfin.
« Avez-vous passé une bonne nuit, ma chère tante ? Et vous, ma cousine ?»
« Très bonne, monsieur. Et vous ?» demande Madame Grandet.
« Moi aussi. »«
Vous devez avoir faim, mon cousin, » dit Eugénie. « Mettez-vous à table. »
Tout en parlant, Charles déjeune. Il a des gestes élégants qui impressionnent Eugénie.
« Voilà papa !»
dit soudain Eugénie en entendant frapper à la porte. Monsieur Grandet entre, jette un coup d'œil sur la table, sur Charles, voit tout et comprend tout.
Ah, vous avez fait la fête à votre neveu. C'est bien, très bien. Donne-moi mon verre, Nanon. Mon neveu, lorsque vous aurez fini, nous irons ensemble dans le jardin. J'ai à vous dire des choses peu agréables.